Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, transparence, éthique, priorité, qu'est-ce qui définit la stratégie vaccinale ? Il ne manque plus désormais que le dernier avis de la Haute Autorité de Santé pour que la vaccination contre le Covid-19 commence en France. Les premières injections devraient être réalisées dimanche, mais c'est réellement courant janvier que la campagne pourra débuter. Car les doses arrivent petit à petit, l'organisation logistique est un défi. Impossible de vacciner tout le monde tout de suite, c'est pourquoi il y a une stratégie. Sur quoi repose-t-elle? Dans quelle mesure les choix qui sont faits peuvent-ils favoriser la confiance tant recherchée? Quelles sont les questions éthiques qui sont posées? Nous en parlons ce soir avec Jean-Louis Touraine, député LREM et professeur d'immunologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Frédéric Bizard, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé. Vous avez publié en 2019 aux éditions Fauve un livre intitulé « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?»
Vous voyez sur les côtés derrière moi, des rangées de ce qu'on appelle ces fameux super congélateurs, qui sont des congélateurs qui sont capables de stocker des produits jusqu'à moins 80 degrés, qui sont des congélateurs qui sont sécurisés, qui sont normés, qui sont vérifiés, branchés sur des alarmes, équipés de systèmes d'information pour pouvoir avoir une logistique la plus fine possible, puisque dans ces congélateurs, dans quelques jours, arriveront les premières doses des vaccins Pfizer-BioNTech. Ces vaccins seront conservés à moins 80 degrés, puis ensuite ils seront décongelés en chambre froide spécialisée, avant ensuite de pouvoir être distribués, dispatchés dans les centres dans lesquels ils vont être pré-traités avant enfin d'être envoyés dans les différents établissements pour les personnes âgées.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui visitait ce midi l'une des plateformes logistiques où seront stockées les doses de vaccins. La première phase concernera donc les personnes âgées en EHPAD et les travailleurs de ces résidences présentant des facteurs de risque. Frédéric Bizard, vous avez publié il y a quelques jours dans Les Échos une tribune dans laquelle vous remettez en cause ce choix. Ça n'est pas normal et évident pour vous de protéger d'abord les personnes les plus à risque. C'est le choix fait par une majorité de pays.
En Europe, c'est en effet le choix fait par une majorité de pays. Celui qui a commencé le Royaume-Uni à vacciner est revenu en arrière et a privilégié les professionnels de santé pour des raisons pratiques. Pourquoi est-ce que je conteste ce choix? Mais c'est le débat. C'est contextuel. C'est-à-dire que dans l'idéal, il est évident qu'il faut commencer par les personnes les plus fragiles. Mais là, nous allons avoir à la fois une pénurie de doses et une défiance très importante de la population. La France est le 3e ou 4e pays de l'OCDE avec le niveau de défiance le plus important. Donc, il faut prendre cette caractéristique-là en considération dans la stratégie.
Juste, on va en parler, mais pourquoi pénurie de doses ?
Parce que je pense que le planning de livraison des doses qui est proposé par le gouvernement est malheureusement totalement utopique. 40% du plan de vaccination du premier semestre est basé sur un vaccin que l'on sait que l'on n'aura pas, qui est le vaccin d'AstraZeneca. Juste pour mentionner ça. Concernant les vaccins ARN messagers, on voit que Pfizer retarde de plus en plus les livraisons pour une raison qu'on connaît très bien, c'est que vous avez une forte un goulot d'étranglement au niveau des matières premières que sont les enzymes. En particulier, ça va être encore plus important pour Moderna. Donc probablement que les doses annoncées par Pfizer et Moderna seront bien plus faibles que les doses avancées là. Donc y compris sur la partie de ce vaccin ARN messager, je pense que nous n'aurons pas les 41 millions de doses que l'on annonce. Alors c'est assez important parce que ça influence sur la stratégie. À partir du moment où vous n'avez pas suffisamment de doses, il faut bien peser qui vous faites passer en premier. Donc moi, ma suggestion, c'était de démarrer par les professionnels de santé parce que nous savons que nous allons encore avoir des risques de confinement, avoir besoin d'une première ligne qui soit la plus forte possible. Les professionnels de santé sont véritablement au cœur de cette première ligne-là. Et surtout, il faut faire de ces professionnels de santé, de mon point de vue, des ambassadeurs pour rassurer. On va s'appuyer sur les professionnels de santé, sur les médecins généralistes. Enfin, si vous avez des médecins généralistes qui ne sont pas vaccinés, je ne suis pas très bien, parce qu'ils sont en troisième position dans la stratégie de vaccination.
On va en parler, évidemment. On va parler du choix des généralistes, mais d'abord là-dessus, Jean-Louis Touraine, qu'est-ce que vous pouvez répondre sur les doses, le calendrier, et sur ce choix de commencer, effectivement, puisqu'on ne peut pas vacciner tout le monde tout de suite, par les EHPAD et les établissements médico-sociaux. C'est aussi, on imagine, un choix de société, de choisir qui l'on souhaite prioritairement protéger.
Oui, oui, donc j'entends bien l'argumentation de Frédéric Bizard, mais vous me permettrez de dire que je crois quand même l'option qui a été retenue est la plus raisonnable. Mmh. En effet, il faut effectivement vacciner et le plus vite possible. Chaque semaine qui s'écoule, cela représente des centaines de morts supplémentaires parmi ces personnes vulnérables, les personnes âgées en particulier. Donc, il est évident, si on veut sauver des vies, ce qui est le but du système de santé, il est évident qu'il faut commencer par vacciner ceux qui sont le plus exposés à ces morts illégitimes, devenues illégitimes depuis que le vaccin existe. Mmh. Donc, je pense que oui, vacciner et les personnes âgées et les personnes qui sont en contact de ces personnes âgées, il faut les deux, il faut pas l'un ou l'autre, il faut les deux. C'est-à-dire les gens dans les EHPAD, les gens dans les services de gériatrie, les personnels qui travaillent dans ces services, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, bien évidemment.
Ou les personnes qui font le ménage, par exemple, aussi.
Aussi, qui sont en contact, tous ceux qui sont en contact direct, et je dis les personnes âgées, mais il faudrait y ajouter des personnes très vulnérables, que sont par exemple les greffés, les dialysés, les malades avec des chimiothérapies pour des cancers, des hémopathies malignes, etc., etc. Enfin, tous ceux dont le système immunitaire ne leur permet pas de combattre efficacement le coronavirus. Et donc, ces patients dont on sait qu'ils sont à risque, auxquels on pourra rapidement ajouter les personnes obèses, hypertendues, etc. Enfin, vous savez, toutes ces comorbidités dont on a vu qu'elles exposaient à des formes graves de la maladie. Mais il faut commencer par une étape. Tant qu'on a 1 million de doses, eh ben vaccinons le million le plus exposé. Quand on aura 10 millions de doses, étendons notre champ vers des gens un tout petit peu moins exposés. Et évidemment, ce sera dans un temps ultérieur que pourront être vaccinés et que devront être, l'objet d'une proposition de vaccination des personnes plus jeunes, en pleine activité et n'ayant pas de facteurs de risque, mais chez lesquels on sait quand même que la maladie fait des dégâts, des dégâts pas toujours mortels, mais quand même, il y a ce qu'on appelle un syndrome post-Covid, avec des semaines et surtout souvent des mois de manifestations cliniques importantes, d'une très grande asthénie, d'une très grande fatigue, et puis de différentes autres pathologies. Donc je crois que oui, l'idéal serait évidemment de pouvoir aller très vite dans toute la population, mais puisqu'on doit commencer par un segment de la population, eh bien, concentrons-nous sur les personnes les plus exposées et les professionnels de santé en contact de ces personnes.
Alors Jacques Battistoni, vous êtes aussi avec nous, président du syndicat de médecins généralistes MG France. La vaccination en EHPAD pose la question du consentement éclairé. Est-ce que les médecins traitants vont participer à ce travail de recueil du consentement? Est-ce qu'il a déjà commencé?
Alors oui, il a déjà commencé d'une certaine façon, puisque je le dis souvent, il n'y a pas de consultation quasiment quotidiennement qui ne parle pas de la vaccination et dans laquelle nos patients ne nous interrogent pas ou ne nous donnent pas d'ailleurs leur opinion, d'ailleurs bien souvent. Parfois ils nous interrogent, parfois ils nous donnent leur opinion sans qu'on leur demande sur la vaccination. Donc ce travail de conviction, on le fait au cours de chaque consultation. Alors après, la question que vous posez, c'est par rapport aux patients qui sont déjà en EHPAD. C'est vrai que nous attendons rapidement que les directeurs d'EHPAD fassent appel à nous, à travers les médecins coordinateurs ou à travers le personnel infirmier, pour nous demander de venir aller voir nos patients en EHPAD pour pouvoir les conseiller et éventuellement recueillir le consentement de leur famille s'ils ne sont pas en capacité de le faire.
Jean-Louis Touraine, c'est une question éthique évidemment très importante. D'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique a publié un avis sur cette question et sur l'importance de recueillir ce consentement. C'est primordial, évidemment.
Oui, oui, oui. Moi, je pense que la stratégie pour la vaccination, c'est d'abord le respect de l'éthique. Secondairement, mais très, très vite après, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est on a un devoir d'efficacité. Je l'ai dit, chaque semaine de retard comportera des morts additionnelles. Donc, on doit être efficace et en impliquant tout le monde. Et puis, troisièmement, c'est bien sûr le respect du choix de chacun. Ce choix, nous avons le devoir de l'éclairer, comme ça vient d'être dit, parce que trop de personnes dans notre pays voient cela comme une croyance, si vous voulez. C'est, pour eux, ils disent « je crois que c'est bien » ou « je ne crois pas que c'est bien ». « Je ne crois pas que ça vaille la peine », »,« je ne crois pas que l'efficacité ait été suffisamment démontrée », »,« je ne crois pas que ça n'ait pas d'inconvénient ». Ce n'est pas une question de croyance, hein, c'est rationnel. On ne doit pas mélanger le savoir et le croire. Dans cette question, c'est pas comme une question religieuse où on peut croire ou ne pas croire. Il s'agit là d'une question qui est beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus scientifique. Il y a des arguments qui font dire le bénéfice qu'il y a pour la personne individuelle ainsi protégée et le bénéfice pour la société en général quand on enraye la circulation du virus. Ce sont des arguments qui sont rationnels. Pour autant, même si ces arguments me convainquent parfaitement et convainquent la majorité, bien entendu, des soignants et des médecins qui vont pratiquer toutes ces vaccinations, mais il y a des gens qui sont réticents à cela, et je pense que nous avons un devoir de respecter leur réticence et de ne pas les contraindre. Par contre, nous devons faire les efforts souhaitables pour essayer de convaincre. Donc, si vous voulez, revenons à votre question sur l'éthique. Dans cette question-là, c'est davantage convaincre que contraindre.
Et convaincre, donc justement, ça passe effectivement aussi par ce que l'on met au cœur de la stratégie, c'est ce que vous disiez Frédéric Bizard, en l'occurrence donc les soignants, les premières lignes qui ont été considérées comme des héros de la première vague et qui ont donc forcément un rôle d'entraînement aussi pour le reste de la population.
Oui, alors, vous savez, j'entends. D'abord, c'est une question qui est difficile, hein. J'affirme pas. J'essaie de réfléchir et de voir s'il y a des arguments convaincants pour faire évoluer ma réflexion. J'entends beaucoup de bonnes intentions, de bons sentiments. Je les partage. Croyez-moi, j'ai autant d'empathie pour les personnes qui sont dans les résidences. Mais je crois que c'est le critère d'efficacité qu'il faut prendre en compte. Et il faut se projeter dans le moyen terme. Parce que nous n'aurons pas assez de vaccins. Je pense que nous ne pourrons pas vacciner davantage qu'une petite dizaine de millions de personnes sur le premier semestre. J'attends d'avoir des chiffres.
Oui. Non, mais des chiffres. C'est vos propres projections. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmatif là-dessus?
Par exemple, prenons le vaccin d'AstraZeneca. La FDA vient de dire que si la FDA valide homologue
l'autorité américaine,
l'homologue, ça ne pourra pas être avant la mi-2021. Je vois mal l'agence européenne le valider avant l'agence américaine.
À cette date, il est prévu qu'elle s'en occupe le 12 janvier. Voilà, qu'elle examine AstraZeneca le 12 janvier, l'agence européenne.
Nous verrons. Tant mieux si on le fait. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il faut être excessivement optimiste ou est-ce qu'il faut être réaliste? Encore une fois, si on commence par protéger les personnes dans les résidences, on a plusieurs risques. Un, on a un risque logistique. On a vu en Angleterre, c'est compliqué de démarrer lorsqu'on n'a pas encore mis toute la logistique en place par aller, parce qu'il faut se déplacer, il faudra aller dans les EHPAD. Il eût été beaucoup plus facile d'en faire d'abord un produit hospitalier avant d'en faire un produit, on va dire d'ambulatoire. Bon, on a vu encore une fois au Royaume-Uni, ils ont été obligés de revenir en arrière pour des raisons qui ont été évoquées par le ministre au début de l'émission. Ensuite, on n'aborde pas cette question, mais nous savons que les plus fragiles vont avoir des réactions, des effets secondaires beaucoup plus importants et une efficacité moindre. La durée de vie en EHPAD, c'est 3,3 ans. Donc, vous allez avoir des décès post-vaccination qui n'auront rien à voir avec la vaccination, mais que évidemment, les proches vont pouvoir constater. Bref, toutes ces questions-là, on parle d'éthique, mais me semblent pas totalement secondaires. Ensuite, il y a, encore une fois, avoir une visée médicale, mais si on raisonne en nombre d'années de vie sauvées, vous avez des gens qui ont des espérances de vie beaucoup plus longues et qui sont très à risque par rapport au Covid, hein, des gens avec des comorbidités qui ont 65-70 ans. Donc, cela pourrait très bien être prioritaire si on raisonne ainsi. Je pense qu'il faut renforcer la protection dans les EHPAD. On commence à avoir un arsenal qui s'en met. Bon, on peut très bien renforcer cet arsenal pour davantage les protéger. Donc, je ne vois toujours pas à ce stade-là, dans le contexte actuel, les bénéfices, en tout cas, à prioriser cette cible.
Jacques Battistoni, comment le médecin généraliste que vous êtes réagit à ce genre de discours? Est-ce qu'on doit réfléchir en termes d'années de vie sauvées?
Oui, moi, je ne suis pas économiste de la santé. Ouais. Je suis un peu surpris quand même par ce que vient de dire Frédéric Bizard. Il me semble que, quelle que soit leur espérance de vie, on voit bien que depuis le début de l'épidémie, les EHPAD ont payé le plus lourd tribut. on voit que, et la HAS est très claire là-dessus, que le facteur de risque principal, c'est l'âge. Quand vous avez plus de 80 ans, quand vous avez plus de 90 ans, si vous avez le Covid, vous avez un risque de mortalité très élevé. La deuxième chose qui me frappe aussi, c'est que la principale raison pour laquelle on a mis en place le confinement, ou en tout cas on l'a déclenché dans deux moments précis, c'est parce que la pression hospitalière devenait très forte. Et donc, faire baisser la pression hospitalière, c'est d'abord essayer d'éviter que les personnes les plus à risque soient exposées à la maladie et soient malades. Et évidemment, il y a les EHPAD, il y a bien entendu aussi les personnes âgées de plus de 75 ans qui font l'objet de la deuxième phase de, vaccination.
Voilà. En février,
voilà,
mars.
Au mois de février.
Je suis désolé.
Et pour nous, je finis, médecins de ville, médecins ambulatoires, c'est vrai que cette première phase dans les EHPAD, c'est aussi une façon de s'organiser, de voir comment on va mettre en place, répondre à ce défi logistique qui est d'apporter à proximité des patients les vaccins. Et dès qu'on aura, on va un petit peu profiter de ce premier mois pour se préparer, et ensuite on pourra vacciner en ville les populations les plus exposées en ambulatoire de plus de 75 ans.
Jean-Louis Touraine, pour poursuivre sur ce rôle des soignants justement, et plus largement des personnes les plus exposées au virus, donc c'est-à-dire les soignants en EHPAD, mais aussi à l'hôpital, les aides-soignants, etc. Justement, comment on sait effectivement que il y a aussi des doutes ou des réticences parfois, y compris chez les soignants, vis-à-vis des vaccins. Il y a des études qui ont documenté cela. Comment les entraîner aussi davantage, et comment souhaitez-vous en faire, comme disait Frédéric Bizard, des ambassadeurs, finalement, parce que, évidemment, lorsque c'est un soignant avec toute l'image que l'on a d'eux qui doute par rapport au vaccin publiquement, ça n'a pas le même effet que quand c'est n'importe qui.
Oui, dans une réunion que j'ai organisée il y a quelques années à l'Assemblée nationale sur le sujet, il nous a été rapporté que, c'était à l'époque des vaccins contre la grippe et d'autres vaccinations, que le taux d'adhésion était extrêmement élevé parmi les médecins, relativement moins élevé, significativement moins élevé chez les infirmières et chez les aides-soignantes. Mais pour autant, chez ces soignants, il était quand même plus élevé que dans la moyenne de la population française. Donc on voit bien que c'est une question qui nécessite qu'il y ait une pédagogie, une explication. Les médecins souvent sont plus confrontés avec les conséquences de la non-vaccination et l'apparition des pathologies. Les autres soignants le voient aussi, donc ils se rendent compte à quel point c'est important. Les uns et les autres savent, et c'est très important pour eux, que c'est une énorme culpabilité que de se dire que l'on apporte un virus potentiellement mortel à ces malades. Et donc, quand on est soignant, on a un double devoir. Le devoir, d'abord, peut-être de se protéger et protéger sa famille, mais aussi un devoir professionnel de ne pas apporter un virus. Je vais vous dire en deux mots une expérience qui s'est passée dans ma... Pas une expérience, un drame qui s'est passé dans ma ville il y a quelques années, où dans des EHPAD privés, un nombre de grippes chez des octogénaires avait été très élevé et provoqué un grand nombre de décès. Il y a eu une enquête effectuée. On s'était rendu compte qu'il y avait malheureusement assez peu de résidents qui étaient vaccinés, et encore moins dans les personnels qui y travaillaient. Et donc, évidemment, on ne peut pas laisser, comment dire, ces personnes ensuite apporter le virus, et puis ensuite, pendant tout le reste de leur vie, avoir ce sentiment de culpabilité d'avoir été à l'origine de la mort de pas mal de personnes âgées parce qu'ils ont apporté un virus, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients.
Mais donc, alors quoi, il faut le rendre obligatoire, le vaccin pour les soignants?
Non, je ne dis pas obligatoire. Je crois, non, je dis toujours convaincre plutôt que contraindre. Je pense qu'il faut vraiment dire aux gens qui travaillent avec les personnes exposées que quand le vaccin sera largement répandu, il est très important que très sérieusement ils songent à se faire vacciner. Et s'ils ne veulent pas se faire vacciner, alors qu'ils demandent à avoir un emploi dans la même entreprise, mais qu'ils soient pas au contact des personnes vulnérables. Parce que c'est quand même très dramatique que d'apporter ainsi un virus potentiellement mortel pour les personnes âgées.
Frédéric Bizard, rapidement.
Oui, je crois que Monsieur Battistoni, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais se trompe un petit peu sur les deux arguments qu'il annonce. D'abord, les résidents en EHPAD ne vont pas en réanimation parce qu'on les intube pas. Donc ils vont très très peu. Donc justement, ce risque de saturation est très faible en commençant par les EHPAD. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de médecins qui sont morts, parce que les médecins, autant en EHPAD, vous pouvez vraiment avec des tests, avec des désinfections, protéger des personnes qui n'ont pas forcément à sortir, autant vous ne pouvez pas, les médecins, ils doivent aller sur le front, ils doivent aller en première ligne. Donc moi, je veux bien qu'on les fasse passer en troisième niveau, mais je suis surpris que des médecins trouvent ça tout à fait normal qu'on les mette en troisième ligne.
Ils sont pas forcément en troisième ligne, disons que ça dépend, c'est les soignants qui ont des facteurs de risque. Voilà.
Ils sont passés en troisième, ils sont en troisième position, en troisième, dans la troisième phase. Bon, non mais il y a débat, mais je suis pas convaincu par cette stratégie-là.
Vous écoutez France Culture, on débat ce soir, vous l'entendez, de la stratégie vaccinale. Il est 18h41.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. France Culture. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene.
Le temps du débat.
He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.
Chloé Cambrelin.
Jolene de Dolly Parton, la chanteuse américaine qui a donné $1 million pour la recherche et le développement des vaccins aux États-Unis. Jacques Battistoni, quoi qu'il en soit, vous, médecin généraliste, allez être au cœur du dispositif dans cette première phase, donc, mais aussi évidemment dans les suivantes, quand la vaccination sera davantage ouverte. On parle énormément des antivax et on l'entend même là dans cette discussion. On a tendance à réfléchir à ce qu'il faut faire en fonction d'eux. Mais est-ce qu'on ne surévalue pas aussi un peu justement ce mouvement antivaccin ? Vous qui êtes médecin, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas en tout cas un certain nombre de personnes qu'il suffit, je dirais, d'informer pour les convaincre ?
Moi, je pense qu'il y a probablement une masse critique qu'il faut arriver à convaincre. Je suis peut-être optimiste, mais je me dis que si on arrive à avoir un discours basé sur des faits, transparent, sans rien omettre des risques, on doit pouvoir convaincre cette masse critique. La majorité des gens n'est pas anti-vaccin, ni même très pro-vaccin. Les gens sont dubitatifs, s'interrogent en ce moment, demandent de l'information, beaucoup. Dès lors qu'on est en capacité de leur donner, de leur expliquer, de donner des exemples aussi, peut-être de replacer l'intérêt de la vaccination par rapport à un contexte historique. Hein, moi, je leur dis très régulièrement, est-ce que vous pensez que sans la vaccination, on peut s'en sortir ? Est-ce que vous vous rappelez dans l'histoire qu'il y a un certain nombre de maladies qui ont fait beaucoup de décès ou qui ont entraîné beaucoup de souffrances chez les gens qui ont été vaincus par la vaccination ? Est-ce que vous ne croyez pas que ce vaccin doit nous permettre de faire la même chose ? Est-ce que vous voyez une autre solution ? Et donc ce dialogue, quand il s'instaure, à mon avis, petit à petit, les gens comprennent. Les anti-vaccins, je suis d'accord avec vous, sont très peu nombreux. Souvent, c'est des gens qui ont des idées très très arrêtées, très dogmatiques. C'est de l'ordre de la foi, c'est pas de l'ordre du raisonnement. Essayons de convaincre les gens qui sont accessibles aux faits, aux raisonnements, à la prise de conscience des éléments qui permettent de se forger une opinion.
Jean-Louis Touraine, sur cette question, est-ce qu'on ne surévalue pas finalement, est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance, même dans les décisions qui sont prises, à cette mouvance anti-vax ?
Comme l'a dit très bien Jacques Battistoni, il y a un petit groupuscule qui est militant anti-vaccination, et puis il y a un nombre beaucoup beaucoup plus important de personnes qui demande à être éventuellement convaincu par les faits. Et c'est pourquoi il nous faut agir dans une transparence totale. il n'est pas question du tout que soit retardée l'explication des effets secondaires potentiels qui arrivent, puisque en effet, tout traitement, mais quand je parle de traitement, pas seulement curatif, même les traitements préventifs, quand on vous donne des anticoagulants, par exemple, c'est pour prévenir une maladie qui n'existe pas encore. Donc, tous ces traitements ont forcément, un jour ou l'autre, quelques inconvénients. Mais le bénéfice est tellement plus fort. Eh bien, là aussi, pour le vaccin, le bénéfice est beaucoup plus important pour tous, même pour les jeunes. Parce que les jeunes ont aussi parfois des maladies avec la Covid qui ne sont pas si négligeables que ça, même si la mortalité est beaucoup plus basse chez eux. Donc pour éviter les séquelles, les fatigues prolongées, etc., c'est aussi important pour eux. Eh bien, moi je crois que oui, il nous faut nous attacher à convaincre par la preuve, par la mise en évidence des chiffres que les EHPAD où la majorité des pensionnaires auront été vaccinés montrent la diminution considérable des nouveaux cas et de la mortalité, de la même façon chez les autres personnes, que l'on puisse répertorier les bénéfices comme les petites réactions qui surviennent ici ou là, et que tout cela soit mis sur la table. Et je crois que, oui, en effet, la majeure partie des gens n'ont pas encore vraiment une idée parfaitement arrêtée. C'est pourquoi il est très important de réfléchir, parce que le vaccin étant là, il ne faut pas tarder. Il faut que les gens prennent une décision pour ceux qui sont proches de la conviction. Et puis les autres, eh bien, ils vont attendre quelques semaines. Ils arriveront petit à petit à être convaincus. Il faut quand même se demander, parmi ceux qui sont extrémistes, qui cherchent à enrôler sur les réseaux sociaux des anti-vax, à qui profitent, non pas le crime, mais à qui profitent les campagnes anti-vaccination? À qui ça profite, selon vous? Moi, je pense que ça profite essentiellement à des mouvements extrémistes qui ne sont pas d'accord avec la civilisation actuelle, avec la société actuelle, et qui utilisent cela comme un moyen pour nuire à notre société. En effet, quel meilleur moyen y a-t-il aujourd'hui, si vous voulez nuire à la santé d'une population, mais aussi à sa santé économique, mais aussi à sa santé culturelle, si vous voulez augmenter l'état de dépression d'une société, quel meilleur moyen y a-t-il que de les empêcher de se vacciner ?
Frédéric Bizard, hein, vous...
Donc, je n'ai aucune... Je ne dis pas, pourtant, parce que je ne crois jamais à aucun complot,
oui,
donc
voilà,
je ne dis pas que c'est intentionnellement organisé, oui. Ça. Non, je dis pas ça. Mais je dis que simplement, chacun de nous doit se dire, quand j'écoute ces propos anti-vax, il faut que je me rende compte que, peut-être, parmi eux, il y a des gens mal intentionnés.
Frédéric Bizard, vous hochez la tête.
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que le terrain français est défavorable actuellement. Il est défavorable structurellement parce que nous avons une politique de la prévention qui est faible, nous avons une culture de la prévention qui est faible, nous avons une éducation sanitaire qui est quasi inexistante. Hein. Donc tout ça, c'est pas un hasard si nous avons ce rejet de la vaccination beaucoup plus important que dans les autres pays. Bon, je suis d'accord que probablement que les anti-vaccins représentent, on estime qu'ils représentent quand même 20% de la population, peut-être plus.
Oui, on sait surtout que c'est très difficile à mesurer.
Maintenant, ils sont extrêmement puissants, tout simplement parce que l'argument, on va dire, populiste, simpliste, de dire les vaccins sont dangereux, ne vous vaccinez pas, est forcément plus simple que l'argument plutôt rationnel que vient de tenir parfaitement Monsieur Touraine, sur lequel on est tous d'accord. Mais c'est beaucoup plus compliqué de tenir cet argument-là. Donc attention, dans la société numérisée, à ne pas sous-estimer ça. Moi, je pense qu'on peut convaincre, encore une fois, il faut avoir une vraie stratégie que je ne vois pas dans le plan de vaccination, quand même, de conviction, de l'organiser. En revanche, je pense qu'il y a un risque, comme en 2009, de faire basculer tout un tas de gens qui ne sont pas du tout contre la vaccination, mais dans un groupe de sceptiques, et qu'on va avoir du mal à amener à la vaccination si jamais il y a des couacs dans le début du plan de vaccination. Donc je pense que c'est extrêmement fragile et qu'il faut vraiment que ce plan-là il soit géré au cordeau, sans erreur.
Alors Jean-Louis Touraine, justement, et on fera aussi réagir Jacques Battistoni, il y a eu cette proposition UDI de passeport vert qui permettrait aux personnes vaccinées de se rendre de nouveau dans les salles de spectacle, dans les restaurants, etc. Et là, il y a, depuis hier, ce projet de loi qui fait couler beaucoup d'encre, projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Le gouvernement a bien répété ce matin que la vaccination n'était pas obligatoire. Mais Jean-Louis Touraine, y a-t-il une possibilité d'aller vers un régime de liberté différencié entre les personnes qui seraient vaccinées et celles qui ne le seraient pas ?
Je vais vous répondre tout de suite, mais je veux compléter ce qu'a très bien dit Frédéric Bizard. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je vais même plus loin. Nous avons un devoir de réussite, là. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas faire comme ça a été le cas pour la vaccination contre le virus avec les H1N1. On ne doit pas faire comme quand le nuage de Tchernobyl se répandait sur la France et que d'aucuns disaient qu'il s'arrêtait aux frontières. On doit dire exactement ce qu'il en est. On doit être dans une transparence, une loyauté, une vérité. C'est la communication de crise impose de dire les choses comme elles sont.
Et c'est ce qui est prévu, n'est-ce pas?
C'est ce qui est prévu et il faut absolument le faire. Je crois que c'est très important parce qu'on a un devoir de réussite. Et moi, je suis un petit peu plus optimiste que M. Bézard dans le sens où je pense que quand même avant l'été, on aura pu vacciner un pourcentage significatif de la population. Alors, c'est en tout cas l'objectif vers lequel on tend tous parce que ça, c'est le moyen pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, après l'été, de résurgence. À l'été, ça va diminuer. Mais le mois de septembre-octobre, ou novembre, enfin comme ça a été le cas cette année de 2021, sera tout aussi difficile si on n'a pas vacciné la majorité de la population. Donc on a le devoir de réussite là-dedans. Alors maintenant, pour savoir faut-il ou pas des contraintes, moi je pense que des contraintes très très limitées peuvent être évoquées, mais le plus possible en essayant de les faire partager par les personnes. Je crois qu'il faut faire attention. On va voir quel sera le texte de loi sur lequel on va sûrement apporter des amendements pour maintenir le respect de la liberté. Il ne faut pas du tout que ça soit perçu comme liberticide. Là aussi, c'est très important pour qu'il y ait une adhésion à la vaccination, que les gens ne pensent pas qu'on leur force la main. Donc, il faut vraiment limiter les cas dans lesquels on incite fortement. Alors, j'ai dit les personnels des EHPAD. Bon, oui, là, il faut leur dire si vous voulez pas du tout vous vacciner, que vous potentiellement vous apporter, eh ben il faut peut-être que vous travaillez dans un endroit où vous n'êtes pas en contact avec les résidents, etc., etc. Bon, de la même façon, ça c'est pour les activités. Il y a certaines activités, vous voyez, où, bon, maintenant il y a aussi la limitation des déplacements. Mais vous voyez, c'est déjà le cas avec le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus franchir la Manche. Bon, vous voyez bien.
Oui, mais
que
c'est temporaire,
si vous
et c'est pas une question de vaccin ou pas vaccin.
Passer de l'autre côté de la Manche, il faudra, dans un sens comme dans l'autre, prouver soit que vous êtes tous les jours sans le virus, soit que vous êtes vacciné. Et donc, il y a un moment ou un autre, vous aurez ce genre de choix qui s'imposeront. Maintenant, il faut faire très attention, dans les termes qui seront retenus dans le projet définitif de loi, à ne pas donner l'impression qu'on veut utiliser ça de façon trop facile, de façon contraignante, en limitant les libertés. Mais par contre, oui, je crois qu'il y a, pour certains déplacements, et quand j'ai parlé de la Grande-Bretagne, on pourrait presque dire la même chose avec la Suisse. Regardez, nos amis frontaliers qui sont en Franche-Comté, dont beaucoup vont travailler tous les matins en Suisse et reviennent le soir. En Suisse, il y a une circulation plus importante du virus en ce moment. Eh bien, il y a le risque que la frontière soit fermée. Et pour eux, ça veut dire qu'ils arrêtent de travailler et donc d'avoir des ressources financières. Il vaut mieux pour eux, c'est évident, être vaccinés plutôt que de perdre leur travail.
Jacques Battistoni, j'aimerais vous entendre évidemment aussi là-dessus, président du syndicat MG France, sur ces régimes de liberté qui pourraient être différenciés en fonction de est-ce qu'on est vacciné, est-ce qu'on n'est pas vacciné, est-ce qu'on a le droit de faire du coup.
Oui, oui. Toute petite réaction d'abord pour reprendre les propos de Frédéric Bizard, mais aussi de Jean-Louis Touraine. Je suis complètement d'accord avec eux sur cette notion de devoir de réussite. Et je crois que c'est aussi pour cela que nous avons plaidé pour associer vraiment beaucoup plus qu'on l'avait fait pour H1N1, les médecins généralistes à cette campagne-là. Le principal défi pour nous, c'est d'abord de convaincre la population. Et je crois que les médecins généralistes sont particulièrement bien placés pour, à l'intérieur de la relation qu'ils entretiennent avec chacun de leurs patients, avoir ce discours, faire preuve de pédagogie et essayer de les convaincre que la vaccination, c'est vraiment le moyen essentiel. Et il faut passer, quand quelqu'un se vaccine, il se dit « moi je prends un petit risque ». C'est vrai, je crois qu'il faut surtout pas imaginer que ce risque est très important, c'est un risque de réaction locale. Par contre, ce petit risque que je prends, ce choix que je fais, il permet d'aboutir à une protection qui est une protection collective. Et on voit bien que dans d'autres pays, on a un repli sur l'individu et le collectif, c'est difficile. C'est aussi pour ça que la santé publique n'est pas suffisamment développée. Sur le passeport vert, je regarde ça avec beaucoup de curiosité. Ce qui me semble clair depuis le début, c'est que à un moment donné, quand on voudra reprendre une vie normale, une vie comme avant, et notamment pour pouvoir voyager, il est probable que de la même façon qu'on a besoin du certificat de vaccination contre la fièvre jaune pour aller dans certains pays, on aura besoin d'un certificat de vaccination Covid pour aller dans certains pays et peut-être des pays limitrophes. Après, est-ce que ce bonus, quelque part, cette liberté supplémentaire qu'offre la vaccination va pouvoir trouver une traduction dans des choses plus proches de nous, y compris dans la vie quotidienne, peut-être, je dirais presque sans doute, mais attention aussi à ne pas créer deux catégories de population. Il faudra être extrêmement vigilant, attentif à ne pas être discriminant par rapport à des gens qui ne voudraient pas se faire vacciner. Donc voilà, beaucoup d'attention sur ce point, très sensible à mon avis.
Frédéric Bizard.
Le président de la République a dit lors de la visioconférence au Conseil des ministres une phrase que j'ai trouvée intéressante, qui dit qu'il va falloir être aussi inventif que ce virus qui est lui-même assez créatif. Donc moi je pense qu'il faut étudier ce genre de différenciation si elle est pertinente sur un plan scientifique, c'est-à-dire que si véritablement le vaccin permet d'éviter les contaminations.
Donc, ce que l'on ne sait pas pour l'instant.
Ce que l'on ne sait pas. Donc je pense qu'il faut ouvrir ce débat. En revanche, et je continue à tirer le fil qu'on a tiré avec Monsieur Touraine sur le devoir de réussite. Ce devoir de réussite passe par une union nationale sur le plan politique. Si on a, comme on commence à voir depuis 24 heures, un embrasement politique parce que on trouve que c'est absolument scandaleux, alors peut-être que c'est assez maladroit d'imposer, je pense qu'il faut avant tout créer une union nationale et rechercher un consensus politique pour qu'au moins on n'ait pas ça à gérer, en plus des anti-vaccins, avec des gens qui ne s'entendent pas sur la façon avec laquelle on va gérer la chose. Donc l'union nationale politique me paraît la plus large possible, je me doute bien qu'elle sera pas complètement, mais me paraît indispensable pour aller avec ce genre de formule.
Jean-Louis Touraine, là-dessus, sur la question, peut-être effectivement la nécessité de dépolitiser ça, est-ce que c'est possible, tout simplement ?
Vu du côté de la majorité, évidemment, vu du côté des oppositions, oui, je pense que c'est possible avec l'opposition républicaine. Je pense que les extrémistes sont dans un rôle différent, si vous voulez, saisissant chaque opportunité pour s'opposer plutôt que de...
Bon, et en même temps, si on parle de liberté de circulation, c'est aussi normal que ça suscite des débats. C'est
absolument, absolument. Mais ça, je rejoins ce qu'ont dit vos deux autres participants de façon tout à fait évidente. Ce sont des sujets un peu touchy, comme disent les Anglais, un peu sensibles, un peu délicats, que nous devons traiter avec beaucoup de tact. Nous devons le faire avec beaucoup de tact. Et moi, je considère, et Monsieur Battistoni l'a évoqué, que c'est très, 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 très important que cela passe par le médecin traitant de chacun, le médecin de famille, comme on disait avant, celui en qui les gens ont confiance. Parce que ces sujets étant abordés dans ce cadre d'une confiance entre les personnes et leurs médecins, ces sujets vont être traités non pas comme venant d'en haut, comme étant imposés par le gouvernement, comme imposés par une certaine vision, voire même par des académiciens, des comités scientifiques, etc. Mais ça sera au contraire discuté entre gens qui se connaissent, entre gens qui affrontent ensemble le même défi. Et donc moi, oui, je pense que ces sujets-là doivent être l'objet d'un rassemblement, mais ce rassemblement, il se décrète pas. Il n'y a pas de moyen pour dire, mesdames et messieurs, les républicains, les socialistes, les écologistes, etc., ensemble, faisons quelque chose. Et c'est pas si facile. Par contre, oui, à la base, les gens, comme vous avez dit, dépolitisés, les malades, quand ils vont voir leur médecin, ils se demandent pas si leur médecin, il est de droite ou de gauche. Ils vont voir leur médecin en qui ils ont confiance, parce que le médecin s'est toujours bien occupé de leur famille. Et donc, ils vont continuer et ils vont avoir ce débat. Et il faut laisser un certain nombre de choses se décider à ce niveau.
Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Louis Touraine, député LREM, professeur d'immunologie. Vous avez écrit « Donner la vie, choisir sa mort pour une bioéthique de liberté » publié en 2019 aux éditions RS. Merci Frédéric Bizard, professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé. Votre livre est alors « La réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» publié en 2019 aux éditions Fauve. Et merci beaucoup Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France. C'était le temps du débat. Bruno Barada, Rémi Baille, Hugo Boursier, Louise André et Imane Gilles à la technique ce soir, Baptiste Lénard. À la réalisation, Alexandre Manzanares.